Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter avec des sons et du sens dedans.
Depuis le studio 154, une émission réalisée par Jérôme Chélius, assistée de Lucie Spindler, avec à la technique aujourd'hui Loïc Rapsos.
Cette semaine, tourisme en Islande, une erreur boréale et décor sonore, la musique de l'espace urbain et des radiateurs.
Aujourd'hui, 98% de la musique que nous entendons sort d'un haut-parleur.
L'Islande est en train de devenir un des rares pays au monde où le nombre de touristes qui viennent chaque année dépasse le nombre d'habitants.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Comme un bruit qui court, qu'à l'heure où la dinde commence à rôtir dans le four, certains appréhendent déjà les possibilités d'un repas raté, de réflexions mal placées, craignent de se retrouver enfarinés comme un candidat en campagne, bref, redoutent toutes les petites joies des réunions familiales pas toujours apaisées. C'est le lot des fêtes de fin d'année, la magie de Noël qui tourne au cauchemar en cuisine ou carrément au dîner de con. Alors à quelques heures du réveillon, Comme un bruit vous offre un moment de détente, un moment pour vous relaxer avant le grand barnum de la soirée. Pour Noël, on vous fait un beau cadeau, on vous emmène en Islande dans le cercle d'or. Avec Guy Vanctil, on va aller admirer la splendeur des aurores boréal, tout en vous épargnant les désagréments du tourisme de masse. Alors restez bien au chaud, fermez les yeux et écoutez un voyage touristique comme si vous y étiez. Et puis changement de décor avec Antoine Chao, c'est un voyage dans le son, dans le bruit de qualité qu'on va entamer avec la compagnie Décor Sonore justement. Une expérience qui va transformer votre manière d'écouter le monde qui vous entoure, qui va élargir votre imaginaire sonore. Comme un bruit qui court, tourisme en Islande, l'erreur boréale et décor sonore ou la musique des radiateurs, c'est jusqu'à 17h sur France Inter et c'est parti.
Antoine Chao, Charlotte Berry,
Guy Vanctil. Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Welcome you all aboard this Northern Lights tour. My name is Hugi Garðarsson, but you may call me Huger. I will be your tour guide for this evening, and our bus captain's name is Marek. The outside temperature is 1 degree Celsius, and the forecast for this evening is clear skies and no rain.
Une ambiance polaire qui attire désormais le monde entier.
Parece que la naturaleza la están preservando.
Mais j'ai l'impression jusqu'à maintenant qu'ils préservent la nature.
Now Icelanders are selling the Northern Lights big time.
Maintenant l'Islande se retrouve à vendre nos aurores boréales.
Comment un petit pays qui n'a ni train, ni métro, ni McDonald's, ni plage de cocotiers peut-il être en tête des destinations touristiques les plus demandées en Europe ? Ajoutez à ça qu'il y fait souvent très froid et très nuit, rien n'y fait, l'Islande est submergée de touristes ravis. Si l'image de l'Islande s'est si bien vendue pour ses paysages à couper le souffle et ses aurores boréales, certains en viennent à se demander si les touristes ne seraient pas l'horreur boréale. Leur nombre a en effet été multiplié par 6 en 6 ans. Ils sont été plus d'1 700 000 cette année, plus de 5 fois la population locale et les projections en annoncent 2,5 millions pour 2019. Sauf que quand ils s'extasient, comme nous allons le faire en regardant les aurores boréales, les touristes par légion ne voient pas la nature fragile qu'ils piétinent, parfois irrémédiablement. Et c'est là où on en vient au paradoxe du tourisme qui détruit ce qu'il aime. Comme un bruit qui court en Islande, Disneylandisation ou saccage écologique, le tourisme sera-t-il l'erreur boréale ?
C'est froid, il y a une petite neige et pourtant je dois avouer que le paysage est assez magnifique. Et on arrive en même temps que le groupe. Le car s'est arrêté. Nous voici à une cinquantaine de kilomètres de Reykjavik, dans un des hauts lieux touristiques de l'Islande.
Thingvellir.
Je ne sais pas si je prononce correctement, mais on n'est pas les seuls à y aller. Nous voici avec un groupe de touristes. On se dirige sur un petit chemin de cailloux noirs volcanique au milieu des rochers. On va sur un des hauts lieux touristiques du pays, un lieu tectonique, là où s'entrechoquent les plaques eurasiennes et américaines qui ont donné naissance à ce petit pays volcanique. C'est assez impressionnant parce que il y a une espèce de petit crachin de flocons de neige. En même temps, il y a le soleil. En même temps, il y a des nuages. Et là, je peux plus avancer parce que tout le monde s'est arrêté pour prendre la photo. Sorry. Maintenant, si c'est l'embouteillage alors qu'on est dans la steppe déserte. Sorry. Excuse me.
Pays de glace et de feu, l'Islande se situe tout au nord de l'Europe, à proximité du cercle polaire, 66 degrés nord. Un pays de 300 000 habitants, dont une grande partie vit dans la région de Reykjavik, sa capitale.
Alors ça, c'est le guide qui est très fier de ses petits effets. Il faut dire que le guide, il est déguisé en viking, quoi, avec les cheveux longs et la barbe un peu hippie, mais avec l'épée, l'armure et la côte de maille. Et les touristes, là, qui sont entassés, qui bouchent le paysage à la ronde, sont en train de rigoler à chacune de ces petites blagues. Alors là, il y a des petites marches creusées dans le basalte, tant bien que mal. On va essayer de descendre sans trop glisser.
Don't fall. It's slippery. Ça glisse.
Yeah.
Where are you from?
England.
England.
Yeah.
C'est la première fois que vous venez?
Yeah. We've seen the Northern Lights.
C'est magnifique. On a vu les aurores boréales.
And we saw the reds and swirling. It was lovely.
Avec les lumières qui glissaient dans le ciel, c'est vraiment sublime. Et là, vraiment, on est en train de marcher dans les rochers, essayer de pas tomber dans les flaques de boue.
Enjoy your stay.
Et là, on est dans une espèce de canyon. Vraiment, on marche dans la nature. Il y a un tout petit chemin. Et tous les 10 mètres, il y a un panneau qui dit, s'il vous plaît, ne marchez pas dans la nature, dans l'environnement. Ne grimpez pas aux rochers. Au milieu des genêts, des mousses et des lichens. Et là, maintenant, on marche sur un petit ponton en bois qui est posé sur la lande, protégé de cette végétation très fragile. C'est un peu l'autoroute à touristes, en fait. Et au loin, ah ouais, au loin, je vois les cascades, là, l'eau projetée par la cascade. Tous les 10 mètres, chacun s'arrête pour prendre la photo, mais le problème, c'est qu'il y a toujours des gens dans le champ. Alors que ce qu'on nous vend avec l'Islande, ce sont ces paysages magnifiques, qui sont effectivement magnifiques et désertiques. Sauf que là, bah, on est dans le champ. Là, je suis en train de, pas intentionnellement, en train de ruiner leur photographie.
Iceland, a land of fire and ice, stark contrasts and harmonious natural wonders. Tour Radar's travel guide will reveal new depths of this magnificent country. So, are you ready to discover? Welcome to Iceland.
Hi.
Hi, we're from England.
Vous venez d'Angleterre?
Because we hear the scenery is amazing.
Ah, on a entendu dire que les paysages étaient magnifiques.
Oui. Also, we want to see the Northern Lights.
On voulait voir aussi les aurores boréales.
J'espère.
Pour l'instant, ouais, ce que nous avons vu, hein, ça lui plaît beaucoup.
Bonne chance pour les Northern Lights, les aurores boréales.
Merci. Merci.
Merci.
Hi. Where are you guys are from?
Canada.
Where are you
We're from?
From
Liverpool in England.
Liverpool en Angleterre.
Yeah.
Voilà. On a dit. Et dites-moi pourquoi vous êtes venu en Islande.
Because it is still new in terms of tourists.
C'est un nouveau en termes de tourisme.
Yes.
Se siente el hielo y el fuego.
On sent la glace et le feu.
But I think it's going to get even busier than it already is. So come now.
Mais venez vite parce que c'est en train d'être de plus en plus busy. C'est ça, il y a de plus en plus de monde qui vient. Ça devient très populaire et donc on commence à être les uns sur les autres.
Yeah. Yes, absolutely. Yeah. Especially here in the national parks.
Ici, surtout dans les parcs naturels.
Ouais. 15 años a esta parte y muchísimo viajero islandés.
Ces 15 dernières années, on a beaucoup d'amis qui sont venus jusqu'ici.
Si.
Et qu'est-ce que vous me conseillez de faire alors? Qu'est-ce qu'il faudrait voir?
North.
Aller au nord.
Go north, that would be my advice.
C'est le conseil d'aller au nord. Ok. Merci beaucoup.
Thank you.
Bye bye.
Ah, on entend le bruit alors qu'on s'approche de la cascade et qu'on la voit de moins en moins en fait parce qu'il y a un mur de touristes qui prennent leurs photos.
J'adore les cascades.
Yeah, we're having a fantastic time. Yeah, it's fabulous.
C'est really fabuleux. On passe vraiment un moment extraordinaire.
We would definitely come back again, wouldn't we?
On reviendra certainement.
My parents have been.
Mes parents sont déjà venus.
A friend of ours went on their honeymoon as well.
Des amis à nous aussi sont venus pour leur lune de miel.
So yeah.
There's loads more flights from England now.
Il y a de plus en plus de vols maintenant d'Angleterre.
American, Spanish, French, lots of people.
Il y a beaucoup de Français, d'Anglais, d'Espagnols, d'Américains. C'est assez occupé.
Very busy, very busy.
Presque trop, non?
Ah, no, not too bad.
Là, ça va encore.
Yeah.
Allez, les groupes de touristes sont là en train de se faire prendre en photo de groupe. Hi, Mr. Guy, can I bother you for a second?
Of course,
if you want.
Yeah, by all means.
Alors, racontez-moi, vous êtes guide et vous emmenez ce groupe?
Yes, the company specializes in school and university groups.
On est spécialisé dans les visites de groupes scolaires ou universitaires.
Today, we're traveling the classic sites of the Golden Circle.
Là, aujourd'hui, on est en train de faire les sites touristiques classiques du Cercle d'Or, comme on appelle.
And one of the aspects that we're trying to encourage the students to consider is the pressures that the huge number of visitors coming to Iceland, which has grown massively in recent times.
On essaie d'attirer l'attention des étudiants sur la pression touristique incroyablement accrue ces dernières années en Islande.
And the associated problems that they bring with them.
Et les problèmes que ces touristes amènent avec eux.
And there is a big fear that the whole of the this part of the country anyway is being Disneyfied. And the very natural beauty that attracts people here is perhaps under threat.
Et il y a vraiment la peur de la Disneylandisation de ces sites magnifiques naturels et que du coup l'attrait touristique en viennent à les menacer.
It's a very difficult balancing act.
C'est un équilibre très difficile à trouver.
There are certainly threats in terms of threats to the physical landscape.
Déjà, c'est les paysages qui risquent d'être abîmés.
The huge numbers of feet that are actually traveling over these natural beautiful sites.
Par exemple, l'impact de des milliers de pas qui viennent piétiner ces sites naturels magnifiques.
And the growth of the industry has been so rapid, I think a growth of 34% in the last year.
Et la croissance touristique a été telle ici, je crois que c'était 34% pour la dernière année en cours.
And this has meant it's a big issue for the country.
Et c'est vraiment un problème, une question importante pour le pays. Yes. C'est tellement beau qu'il faut le préserver et qu'il faut venir voir, mais pas trop.
Yeah, I mean, we say back home there are certain places in our country that are literally being loved to death by the visitors.
C'est ce qu'on voit en Grande-Bretagne chez nous. Il y a des endroits dans notre pays qui ont été tellement aimés par les touristes qu'ils ont été tués.
Victim of their own popularity, but it's something.
Victime de leur succès.
It's something that has to be managed in some way for the benefit of everybody.
Et c'est quelque chose qui doit être pris en compte ici pour que tout le monde puisse en profiter.
Thank you very much.
All right,
you're welcome.
Take care. Voilà le guide qui rappelle ces touristes qui chacun se prend en photo. Alors vous avez peut-être compris, chers auditeurs, c'est magnifique l'Islande, mais surtout, si vous voulez en profiter, venez, mais pas trop. C'est là tout le paradoxe du tourisme qui détruit ce qu'il aime.
Il faut 6 mois pour dénicher une chambre d'hôtel à Reykjavik et beaucoup de patience, nous dit-on, pour récupérer ses bagages à la descente de l'avion. Cette année, l'Islande attend 1 700 000 visiteurs, 5 fois plus que la population de l'île. Le nombre de touristes augmente de 20 à 30% par an et le sud du pays est congestionné. Mais les Islandais vivent plutôt bien cet afflux touristique qui leur a rapporté 1 600 000 d'euros l'an dernier. Pas question de réguler, une ministre a bien essayé de faire payer aux touristes un pass pour financer la protection de la nature, mais elle s'est heurtée à une levée de boucliers.
Thank you. Tell me if I pronounce correctly. Thorvaldur Gylfason?
Yes.
Alors Þorvaldur Gylfason, vous êtes professeur d'économie à l'Université d'Islande et vous me recevez chez vous, et c'est impressionnant chez vous parce qu'on est près du bord de mer, avec une vue à perte de vue sur des grues partout qui sont en train de construire. On en a même à 10 mètres d'ici. Qu'est-ce qui se passe dans votre pays alors ?
Well, Iceland is recovering from the financial crash of a few years ago.
L'Islande est en train de récupérer après la crise financière de 2008.
And one of the driving forces behind the economic activity that you see all around you is expansion of tourism.
Un des moteurs de toute l'activité économique que vous voyez autour de vous, c'est la croissance du tourisme.
Before the crash, the Icelandic krona was overvalued, which meant that Iceland was considered too expensive for many tourists.
Parce qu'avant la crise financière, à cause de la surévaluation de la couronne, de la monnaie locale, le pays était trop cher pour les touristes.
And then the tourists started flooding the country.
Et c'est là où les touristes ont commencé à défiler ici dans votre pays.
Actually, Iceland has become one of the very few countries in the world where the number of tourists arriving each year is much greater than the local population.
L'Islande est en train de devenir un des rares pays au monde où le nombre de touristes qui viennent chaque année dépasse le nombre d'habitants. C'est ce qui se passe là. On me dit qu'il y a 30 000 touristes qui arrivent chaque jour.
France would need something like 250 million tourists a year to match Iceland in per capita terms.
La France, qui pourtant, je le rappelle, est la première destination touristique au monde, devrait avoir 250 millions de touristes par an pour pouvoir statistiquement être équivalent à l'Islande.
And tourism has become the most important earner of foreign exchange in Iceland.
Le tourisme est le principal apport de devises étrangères ici dans l'économie islandaise. Plus que le poisson, plus que l'aluminium.
Yes, tourism has become number one.
Mais maintenant, le tourisme est le premier ici dans l'économie.
À la chaleur de la Tunisie ou de l'Égypte, les touristes n'hésitent plus à préférer le froid islandais, plus sécurisant. Le pays des glaces est même de plus en plus à la mode. Des paysages sauvages, la plus faible densité de population d'Europe, mais la plus forte concentration de volcans. C'est ce tourisme qui a permis à l'Islande, en quasi-faillite il y a quelques années, de remonter la pente.
But let me go a bit further with the tourism question.
Mais continuons avec la question touristique.
Some people say that experience from around the world suggests that tourists are fickle, they come and go.
Ce qu'on voit après dans le reste du monde, c'est que les touristes sont très versatiles, ils vont et ils viennent.
So some people worry that this influx of tourists will reverse itself, leaving a lot of empty hotel rooms and things like that.
Donc il y a pas mal de gens qui s'inquiètent que la venue des touristes puisse se tarir et laisser ici des hôtels complètement déserts.
The other concern is that when a country is suddenly invaded by such large numbers of tourists, some people are beginning to worry that there will maybe serious environmental consequences.
Et l'autre problème qui est posé, c'est quand un pays comme le nôtre est envahi par des masses de touristes, c'est les conséquences environnementales de cette arrivée massive.
This has happened so suddenly since, you know, the crash in 2008, that very little infrastructure to protect the environment against heavy tourist traffic.
C'est ce boom touristique qui arrivait tellement vite après la crise de 2008 qu'il n'y a pas d'infrastructure pour protéger l'environnement d'un afflux massif de touristes. Voilà, maintenant c'est des cars entiers qui vont voir les Northern Lights, les aurores boréales, chaque soir.
But now Icelanders are selling the Northern Lights big time.
Mais voilà, maintenant l'Islande se retrouve à vendre nos aurores boréales.
À décorner les bœufs à Reykjavik. Et nous voilà avec Randvig.
Yes, Randvig.
Randvig.
Yes.
Magnus Dottir.
Yes.
Vous êtes écologiste, vous êtes
I'm
militante.
Écologiste, yeah. Mammal écologiste.
Et je vous retrouve ici dans un supermarché de Reykjavik. Et parce que vous êtes une militante de la cause écologique ici en Islande et il y a plein de questions en cours, et en particulier à cause du tourisme.
Yeah, we have a lot of issues because we have to import all the food.
On a le problème d'abord parce que toute une grande partie de la nourriture est importée ici.
Yeah, we, like for example the imported ice cubes. So we have, believe it or not, there are countries that are selling Iceland frozen ice cubes.
Et c'est absurde au point où là on est dans un supermarché. Bon, on peut aller voir, maybe we can go have a look. On est dans un pays où l'Islande, où on en est même à importer des glaçons. Aussi absurde que ça puisse paraître. Is there? Tac. Et on ouvre le congélateur parce qu'il n'y a que ça ici. Et voilà deux paquets. Pure ice.
Pure ice, premium ice cubes, not Icelandic.
Filtered, des glaçons d'eau pure qui sont filtrés et purifiés. Et ceux-là, effectivement, on voit. Flintshire, oui, c'est en Grande-Bretagne. Et ce qui est incroyable, c'est de voir que des glaçons importés en Islande depuis la Grande-Bretagne coûtent moins cher que des glaçons islandais. Ici, dans ce pays où il fait froid toute l'année, c'est fou.
I know, it's incredible. Yeah.
Alors c'est quoi? C'est les règles du marché qui sont folles?
I think it's just crazy marketing, absolutely. And I've seen ice cubes from Norway, Scotland, America.
Et dans les, selon les boutiques, on en voit de partout des glaçons qui viennent jusqu'en Islande, depuis la République tchèque, depuis les États-Unis, depuis la Norvège, qui sont envoyés jusqu'ici. C'est-à-dire que votre pays s'est tellement habitué à importer des produits de consommation qu'ils en sont même à importer des glaçons. Ils ne voient pas la folie d'importer des glaçons dans un pays glacé.
Exactly, and you just kind of grab it, put it on your trolley and go and buy it and don't understand what you're buying.
Et les gens mettent ça simplement sur leur chariot ici et on voit la majorité des produits qu'on voit ici sont importés, déjà emballés, déjà sous plastique. Et alors j'imagine qu'avec la croissance incroyable du tourisme que connaît votre pays, 330 000 résidents, 1 700 000 touristes, ça doit poser des questions, ça aussi, cette importation pour faire manger tous ces touristes.
Yeah, it is definitely an issue. And we are kind of, we don't know what's happening. It's happening so fast.
C'est vraiment un problème, mais tout arrive si vite qu'on s'en rend pas encore bien compte.
And we don't have the infrastructure to kind of welcome all these guests.
Et on n'a pas encore les infrastructures pour accueillir tous ces touristes.
Yeah. So we're quite worried about the effect of tourism on the nature.
Et nous, on est très inquiets sur l'impact du tourisme, surtout dans la nature islandaise, parce que les touristes viennent pour ça, ils viennent pour voir les aurores boréales et la nature sauvage.
And if you have, if you put a lot of people into very vulnerable areas, then I mean we want people to come. Obviously, we're not. I'm not saying we don't want tourists.
Bah, je dis bien sûr que je dis pas que je veux pas que les touristes viennent, mais ça pose un problème quand énormément de gens viennent dans des zones naturelles fragiles.
Yeah, but we want them to building the infrastructure. We need pathways, toilets. And
donc c'est aussi simple que construire des toilettes, de construire des chemins dans la nature pour préserver la nature. Oui, parce que les touristes en ce moment, et apparemment, ils font caca partout.
A lot of poo in Iceland now. In nature, it's like.
Il y a énormément d'étrons dans la nature.
And I mean, obviously, it's a nice thing to do to have your, you know, to do this in nature. But if you have thousands of tourists a day in that little spot, then obviously it's not.
D'aller à la selle en pleine nature dans la nature sauvage de l'Islande, mais comme on a plus d'un million de touristes maintenant, on a plein de d'étrons partout dans la nature, et donc c'est un problème qui n'est pas traité.
Yeah. We're already getting all these people here, and we are not ready.
Tous ces touristes arrivent déjà, mais on n'est pas prêt à y faire face.
Like I've been going to these places since I was a child, and I can see the huge destruction in areas that I love.
Et moi qui vais dans ces zones reculées depuis que je suis enfant, je vois vraiment des dégâts importants faits par les touristes. Oui, c'est ça. Le pays d'Islande a besoin de l'argent des touristes pour s'en sortir. Et c'était un des leviers de la manière dont le pays s'est reconstruit après la crise financière de 2008. Mais maintenant, le tourisme devient une menace, une nouvelle menace.
Ah, now it's like there's mud everywhere and tracks everywhere and trash.
Et voilà maintenant comment c'était. Avant, c'était si tellement beau. Et maintenant, bah, y a de la boue partout, il y a des détritus partout, il y a des camions partout, il y a des cars partout.
Yeah, we love our country and we're very proud. So it's very painful to look at this.
Et c'est vraiment très douloureux de vivre ça.
It's so difficult when you have to deal with both greed and ignorance.
C'est ça qui est très difficile, c'est de gérer à la fois l'appât du gain et l'ignorance. Yeah. L'appât du gain ici et l'ignorance des touristes qui débarquent.
You know, some people are blinded by greed, so they don't really, they're ready to pay the price.
Il y a beaucoup de gens qui sont aveuglés par l'appât du gain et qui sont prêts à tout pour avoir l'argent des touristes.
And they don't understand that they're kind of killing their milk cow.
Et ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de tuer la vache à lait. Ranveig, il faudrait dire, l'Islande c'est magnifique, venez, mais pas trop.
Yes, exactly.
Bon, vous avez du boulot, Randvik. Bonne chance. Alors.
Thank you so much.
21h. Il fait déjà très très froid et très très nuit depuis un bon bout de temps ici à Reykjavik. Et pourtant, les touristes sont dans la queue, dans le froid, et montent chacun à leur tour dans le car. Plus de 1 700 000 touristes qui seront venus cette année dans ce pays, de 330 000 habitants au mieux, encore plus fort que la France, qui est, je vous le rassure, première destination touristique au monde avec 80 millions de touristes. Mais n'empêche, il y avait cette année plus d'États-Unis que d'Islandais en Islande. Et c'est là où on se retrouve ce soir. Nous sommes 2/4 de touristes de toutes les origines qui partons au petit bonheur la chance pour essayer de voir les aurores boréales.
Cette traînée lumineuse qui flotte dans le ciel à quelques 7000 km au-dessus de la Terre est une aurore boréale. C'est une sorte de gigantesque couronne lumineuse qui se déplace dans le ciel et qui est formée de particules venues du soleil et qui tombent sur la Terre.
Voilà comment on se retrouve à maintenant 10h30 du soir sur une aire d'autoroute au milieu de nulle part avec 3/4 qui sont là. Et des dizaines et des dizaines de touristes dans l'obscurité qui brandissent leur appareil photo pour un spectacle, je dois l'avouer, assez fascinant. Mais alors que je m'éloigne un peu du bruit du car, que je sens le froid mordant entre les oreilles, le sol qui glisse à cause du givre, des étoiles qui apparaissent dans le ciel, la Voie lactée d'un côté, et de l'autre, le ciel est strié de bandes ondulantes. Alors là, c'est pas tellement rouge, violet, mauve comme ça l'est sur certaines photos, c'est plutôt argenté. C'est très étrange parce que ça a l'air complètement immobile, figé, comme tout ce qui est à peu près céleste à l'œil humain. Et puis, il suffit qu'on regarde un peu plus attentivement. Avec un peu plus d'attention, et tout d'un coup, on voit que ça bouge, que ça ondule, que ça chatoie, et donc ça glisse. Et les touristes qui désespérément s'acharnent à vouloir prendre le ciel en photo avec un flash. Ce qui est impressionnant, c'est comment la magie s'efface tout de suite dès qu'un véhicule passe et qui éblouit tout le monde avec ses phares. Et toutes les 3-4 minutes, on voit un car chargé de touristes qui viennent de Reykjavik à 1 heure d'ici pour chaque soir faire la chasse aux aurores boréales et permettre aux touristes de ramener leurs photos floues et leurs magnifiques souvenirs de ce petit pays glacé où on met en prison les banquiers. Et au même moment où le chauffeur dit « Allez les gens, il faut rentrer dans le bus », c'est là où ça devient le plus beau. C'est-à-dire, c'est là où vraiment on voit les nuées, des espèces de nimbes, des espèces de rubans éthérés qui traversent le ciel étoilé. On a l'impression que l'aube est en train de se lever de l'autre coin, alors que là, il est minuit passé, en plein milieu, nulle part de steppe gelée et rocailleuse d'Islande. Et vraiment, là, on a l'impression que
derrière des nuages noirs, qui sont en fait le fond du ciel. Derrière des nuages noirs, le soleil est en train de se lever, alors que c'est tout l'inverse. C'est le ciel qui est noir et c'est les aurores boréales. Ça y est, ah oh, et là, tout d'un coup, il y a un ruban qui court à toute vitesse et rejoindre un autre côté. Et c'est pour ça que les gens s'extasient. Et voilà, ça s'est figé à nouveau. Mais tout d'un coup, il y a des accélérations, des dessins qui se modifient. Et là, hop, là, ça ondule, l'intensité lumineuse qui insensiblement évolue. Et voilà, ça bouge à nouveau. On dirait vraiment que c'est animé d'une volonté propre. Autant tout à l'heure, c'était un peu obscur, autant là, ça bouge. Ça y est, ça s'est animé. On fait des cercles et des nuées, des rubans. Et on voit des petites teintes irisées roses. Et qui accélère tout d'un coup. On a l'impression que ça file à toute vitesse. Les gens s'extasient tout autour de moi. C'est vraiment magique. Oh, voilà, ça va tout d'un coup très très vite. On a l'impression d'une illusion d'optique qui bouge à toute vitesse de rose, noir, argenté, blanc. Et hop, ça se dissipe d'un coup et ça se reforme. Là, vraiment, il fait nuit noire et on distingue parfaitement les visages dans l'obscurité. Et voilà, ça y est, ça s'est à moitié occulté et c'est redevenu une petite tache blanche. Et hop, en même temps que je dis ça, ça commence à se réanimer. Oh là là, ça frétille, là. Juste pour nous. Voilà pourquoi près d'1 700 000 touristes sont venus cette année dans ce petit pays de 330 000 habitants qu'est l'Islande pour voir ça. Quand la nature fait du beau, juste parce que ça fait plaisir aux rayons cosmiques de venir bombarder les particules dans la haute atmosphère et que ces particules, ça leur plaît de réagir en irradiant cette espèce de lumière un peu magique et en dansant au-dessus de nos têtes. Jusqu'à 17h sur France Inter. Fermez les yeux, c'est la nuit, là-bas en Islande, et vous écoutez la danse des aurores boréales.
Comme c'est beau!
Bon, je vois que vous n'êtes pas du tout sensible.
Ah, si, 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 moi je crois avoir vu passer les rennes et le traîneau, le Père Noël et tout ça.
N'empêche, j'étais transporté, je dois l'avouer, par ces paysages. Mais c'est vrai que revenu sur Terre, il ne faut pas perdre de vue que cette activité est la première activité maintenant de l'Islande, loin devant la pêche, et que les économistes commencent à tirer la sonnette d'alarme avec la peur d'une nouvelle bulle spéculative. Alors, qui aura le dernier mot entre les économistes et les écologistes sur l'avenir de l'Islande? Encore quelques mois avant de le savoir.
Destruction de l'environnement avec Guy Van Til et découverte de l'environnement sonore. Cette fois, c'est tout de suite avec Antoine Chao.
Ouais, l'environnement sonore qui nous entoure, mais surtout comment la compagnie Décor Sonore met en scène, comme nous on met en onde à la radio, l'espace sonore urbain. La symphonie des valises à roulettes, les trains qui passent, la litanie des sirènes de pompiers, ou plus intime chez soi, la musique de son radiateur. Et ça, cette saison aussi, Guy.
Comme quoi, je suis pas le seul à faire des envolées lyriques.
Alors, on va retrouver, enfin essayer de trouver, Michel Ris, le compositeur et metteur en son de la compagnie Décor Sonore, compagnie qui fête ses 30 ans d'existence, de bidouilles et de tournées dans le monde entier, les oreilles toujours plus attentives que les yeux, pour saisir et partager l'art des sons de la ville.
Quel environnement sonore allons-nous laisser à nos enfants? Y a-t-il des sons en voie d'extinction? Des sons contaminés? Des sons transgéniques? Venez donner votre son à l'antenne mobile de collecte de passage dans votre ville. C'était un message du ministère européen de l'environnement sonore.
Comme un bruit qui court.
Sur France Inter.
Cœur de son.
Oui. Nous sommes combien aujourd'hui, la bête?
26.
Merci.
Moi, je cherche le...
Ça, c'est la rue de la Cité.
77.
Ça, c'est la rue de la Cité, mais la village, je ne sais pas. Vous demandez le coiffeur. Hein.
Merci. Rue des Cités, à Aubervilliers. La villa mais d'ici. MAISDICI. D'ici même, donc, d'Aubervilliers. C'est là ici, non? Ah non! D'accord. Quelqu'un? Alors, la Villa Medici, vous y travaillez, vous faites quoi ici? Alors, parce que je cherche Décor Sonore, la compagnie Décor Sonore.
Décor Sonore, ils sont juste à côté. Ouais, nous, on travaille ici, ouais, on fait de la sculpture, des marionnettes, du spectacle d'objets.
Alors vous, c'est la compagnie?
Les grandes personnes.
Les grandes personnes. Alors c'est quoi cette Villa Medici?
C'est un lieu qu'on a monté il y a 12 ans, à peu près. On a trouvé ce lieu, gardant par la boîte aux lettres de la porte. Ils ont vu qu'il y avait un grand lieu. On était en train de chercher un atelier. Et voilà. Et dès le départ, le projet, ça a été d'en faire un lieu collectif avec différentes associations, différentes compagnies, avec cette idée de mutualisation. On a une époque où on essaye de nous vendre de la réussite individuelle. C'est une arnaque. Nous, on a décidé de travailler sur la réussite collective. Ça marche mieux. Ici, on a tout, quoi. On a un studio photo, une menuiserie, un atelier de métal, un studio d'enregistrement, une salle des fêtes, des espaces de répétition. On n'avait pas envie non plus de faire un clapier à artistes. Il y a beaucoup d'espaces partagés dans les lieux, comme la cour ici, la halle, énormément d'outils qu'on partage, et autant de savoir-faire.
Et Décor Sonore, je vais les trouver où alors?
On travaille dans plusieurs espaces, mais les bureaux, ils sont tout là-haut. Et Décor Sonore, ils sont là maintenant depuis quelques années, oui, depuis bientôt 5 ans, je crois. En haut, à droite, des petits escaliers, là.
Ah, c'est par là.
Dans du son.
L'O-R-E-I. Marcel Baudot, son fondateur, n'a certainement pas choisi cet acronyme par hasard, qui, par homophonie, vous vous en doutez, désigne l'organe de Louis. O-R-E-I, oreille.
Il y a quand même quelques ustensiles là qui nous parlent ici.
Hein. Oui,
nous qui aimons le son,
oui,
à comme un bruit qui court. Ici, on est dans les locaux de Décor Sonore, c'est ça? C'est vos bureaux ici, mais il y a aussi toute une série de matériel, alors collection qui sert encore, j'imagine, parce que vous utilisez tous ces outils.
Il y en a qui ont servi.
Michel Ris.
Disons que Décor Sonore, comme son nom l'indique, c'est une compagnie qui met en scène le son et qui essaye de le montrer. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile à montrer que le son. À la base, c'est une compagnie de compositeurs, donc on est plutôt des musiciens. Mais plus le temps a passé, plus on a trouvé que le son, c'était plus intéressant que la musique, en fin de compte. Et il y a toujours de la musique dans le son. Alors que parfois, dans ce qu'on appelle la musique, il n'y a pas beaucoup de son. Donc ce qui nous intéresse, c'est effectivement le son. Mais oui, on a commencé comme des musiciens. Mais moi, c'est marrant parce que moi, mon début de carrière de musicien, c'est la batterie, les percussions. Et pratiquement simultanément, c'est la découverte d'un magnétophone et des possibilités que ça avait. Et j'ai mis beaucoup de temps avant de choisir. D'ailleurs, je n'ai pas choisi. En fin de compte, j'ai d'abord acheté une batterie parce que c'était moins cher qu'un magnétophone. à l'époque. Et puis après, j'ai acheté mon premier magnétophone. Mais le batteur, c'est celui qui s'occupe des timbres un peu, hein, plus que des notes. Il s'occupe des bruits. Le batteur, c'est le mec qui fait du bruit, mais c'est vrai qu'il joue avec les bruits. Une cymbale, ça fait du bruit. On peut pas chanter la note d'une cymbale. Mais c'est du bruit de qualité. Voilà. Donc nous, on essaye de faire du bruit de qualité. Et puis non, on s'est aperçu aussi avec Pierre Sauvageau, avec qui on a monté la compagnie il y a 30 ans, donc maintenant, qu'on n'écoutait pas le son et la musique de la même manière selon ce qu'on montrait, à quel endroit on était, à la limite avec qui on était, et qu'est-ce qu'on avait mangé, etc. Moi, mes plus belles émotions, c'était toujours par hasard. Et c'était souvent dans la rue, c'était souvent en passant par une fenêtre ouverte, quelque chose comme ça. Et puis, c'était pas forcément toujours des musiques écrites par des grands compositeurs.
Décor sonore, Urbaphonics 2012. Création appliquant le précepte de John Cage. Si un son vous dérange, écoutez-le.
Quand on va au concert ou au spectacle, on paye sa place, on s'installe, on attend que ça commence, on consomme et on applaudit à la fin. Et pourtant, les plus belles musiques que j'ai entendues dans ma vie, je les ai toujours entendues par hasard, des découvertes, des rencontres. Je n'ai jamais pu me promener dans une ville sans être attiré par les sonorités de son paysage, de son architecture et de son mobilier urbain. Est-il encore possible aujourd'hui d'émouvoir avec des formes aussi simples qu'un concert instantané, une lecture sonore imprévue et spectaculaire de la ville, avec des musiciens qui, au lieu de reproduire des musiques sur des instruments, nous feraient écouter quelque chose qui est totalement inattendu et pourtant déjà là. Les sons de la ville, de ses objets, ses ambiances, ses paysages.
Du coup, cette volonté d'investir la rue, c'est ça, de jouer dans la rue, de jouer du son, de faire entendre du son, ça vient d'où alors cette volonté et cette création de décors sonores de la compagnie?
Ça vient d'avoir envie de sortir. Mais l'art est en boîte, hein, aujourd'hui. Il est dans des boîtes noires, qui sont les théâtres, les auditoriums, ou des boîtes blanches, qui sont les galeries ou les musées. Ils sont toujours pas en blanc comme ça. Et puis dans les théâtres, on fait le noir. Mais dans les deux cas, on est toujours dans des boîtes. Et si vous commencez à vous intéresser à l'endroit dans lequel vous êtes, c'est que l'artiste a raté son coup. Si vous vous intéressez au velours des fauteuils, ou à l'architecture du lieu, ou au mur de la galerie, etc., c'est que l'artiste, il vous intéresse pas, quoi, en fin de compte. Or, moi, je trouve que j'ai vraiment réussi mon coup quand le public, qui est dehors, dans la rue, commence à s'intéresser à l'endroit dans lequel il est. Comment ça t'intéresse? Parce qu'en fait, peut-être si ça se trouve, il habite là, il passe par cette rue-là tous les jours, mais il ne fait pas attention, il ne fait plus attention. Alors moi, j'essaye de montrer ces endroits publics par le sonore. C'est une grande partie du travail de la compagnie. Et la question, c'était pourquoi on est sorti de ces salles? Mais c'est tout simplement parce qu'il y avait de la place. Parce que c'était des endroits libres, dans tous les sens du terme. Il y avait des places libres. Quand on cherche à se garer, en voiture, on cherche des places libres. Bon, eh ben, on a qualifié ça à l'époque d'espace libre. On ne disait pas qu'on jouait dans la rue ou qu'on faisait du théâtre de rue. Le vocabulaire qu'on employait il y a 30 ans, c'était espace libre. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y avait de la place. C'est-à-dire que ce n'était pas encombré. C'était ni encombré par les artistes institutionnels qui faisaient de la grande musique contemporaine, ni par l'industrie, ni par le rock'n'roll, ni par la pop. C'était libre. On pouvait faire ce qu'on voulait, donc ça c'était absolument génial. Donc on s'en est pas privé, quoi. On a fait ce qu'on voulait.
Alors Michel Ries, vous fêtez vos 30 ans, alors bon anniversaire, hein, décor sonore. Là vous vous replongez, hein, dans toutes les archives, les photos de 30 ans. Hein,
c'est album de famille. Hein.
Alors on voit, il y a toujours un mégaphone ou des haut-parleurs. Ouais.
Je me suis rendu compte en commençant à réécouter des archives sonores que les sirènes avaient une place vraiment monumentale dans presque toutes les musiques qu'on faisait. Comme si là, on résistait pas à l'appel des sirènes, quoi. Il y avait toujours des sirènes au début de la pièce. Alors, et souvent un mélange de vraies et de fausses. Donc des sirènes de mégaphone, des sirènes d'usine et puis des sirènes synthétiques. Et on mélangeait allègrement tout ça. Et c'était comme pour dire au public, bon, ça commence, quoi. Et à partir de là, souvent, c'est des musiques qui dérivent. Il y avait un son qui nous fascinait beaucoup, c'était le son de la pyrotechnie. Parce qu'on aimait les images pyrotechniques, mais là encore, on se disait, mais c'est des percussions incroyables, c'est fantastique, c'est des choses qui vous prennent au ventre, c'est des choses qui crépitent, qui sifflent. Donc, avec Jean-Marie Chenet de la compagnie Éphémère, qui a donné naissance à Groupe F, on a travaillé les sons de la pyrotechnie, considéré que ça faisait partie de la musique.
Comme un bruit qui court sur France Inter.
Marcel Baudeau s'est intéressé très tôt aux possibilités techniques de capter, de fixer, d'identifier, mais aussi de partager ce qu'il entendait. Très français, hein, donc très bricoleur, ce modeste et génial inventeur de province a imaginé plusieurs méthodes, et des méthodes que nous continuons, il est vrai, d'utiliser et de perfectionner aujourd'hui au sein de l'OREI.
Les monstrations inouïes, un concert boniment autour des plus pathétiques inventions humaines pour faire de la musique avec de l'électricité. La voix que vous entendez n'est pas ma voix, c'est celle d'un haut-parleur. Aujourd'hui, 98% de la musique que nous entendons sort d'un haut-parleur. Et la presque totalité de cette musique est produite directement par des instruments électroniques.
Bonsoir.
Mais quand et comment tout cela a-t-il commencé ?
Je fais de moins en moins de sons maintenant. Et je me dis que les sons, ils sont... Les plus beaux sons, ils sont dans l'oreille du...
Voilà, on va aller au stock.
On s'est ouvert. Ils sont dans l'oreille du... de l'auditeur, quoi. Ils sont dans l'oreille du spectateur. C'est Duchamp qui dit que c'est le regardeur qui fait le tableau, et je pense que c'est l'écoutant qui fait la musique, quoi, un peu. Alors donc, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que moins je fais de son, moi, plus je fais écouter ceux qui sont déjà là, plus c'est intéressant. Bon.
Donc que... ici, c'est la réserve, hein, de décor sonore, c'est
ouais,
ça.
Là, ouais. C'est là où on stocke, alors, à force, on a fini par... accumuler pas mal de... Nous, on a un spectacle qu'on tourne depuis 2001, les Monstrations Inouïes. Alors, les Monstrations Inouïes, c'est l'histoire des tout premiers sons électroniques entendus par une oreille humaine, et comment le son électronique a fini par faire de la musique, et d'où viennent ces instruments, d'où ça vient, la musique électronique, en fait. Et puis on a ressuscité des instruments qui n'existaient plus. Et puis on fait jouer sur scène des instruments qui existent encore, qui marchent pas toujours. Comme bon, bah le thérémine tout le monde connaît, mais les ondes Martenot aussi. Mais il y a des choses un peu plus anciennes. Alors ça, c'est stocké par là-bas. Et puis là, sous la housse, tu peux voir. Bon, t'as, peut-être que tu connais ces instruments-là. Ça dirait vraiment un instrument de laboratoire.
Voilà. Donc là, c'est le synthétiseur.
Voilà, c'est un synthétiseur analogique que moi j'ai acheté d'occasion au début des années 80, et qui valait encore fort cher, qui était encore très. Mais qui maintenant est devenu totalement inabordable, alors, pour le coup. Et donc, ça, c'est maintenu en état de jeu. Parce que si demain on nous demande de jouer les Monstrations Inouïes, bon, ça va pas être simple, mais on peut le faire. On a gardé, tous les instruments sont là. Ce que je peux pas te montrer, ce que je t'aurais bien montré, c'était la baignoire électronique.
Ah ouais,
une reconstitution du premier son électronique entendu par une oreille humaine.
Décor sonore remonte aux sources du son électronique et vous en fait découvrir les grands précurseurs dans un concert d'instruments aussi authentiques qu'extravagants, les Monstrations Inouïes. Nous sommes en 1800.
1873, à Chicago, dans la salle de bain d'un certain monsieur Elisha Gray. Et nous sommes en présence du tout premier son électronique jamais entendu par une oreille humaine. Alors qu'il travaille à un perfectionnement du télégraphe qui consiste à transmettre des notes de musique plutôt que de simples impulsions en morse, il fait accidentellement vibrer sa baignoire par induction électromagnétique.
Alors Michel Ries, est-ce que le paysage sonore a changé depuis 30 ans que vous le pratiquez, que vous l'écoutez, que vous le mettez en scène ?
Il y a effectivement des objets qui ont disparu. Oui, je parle d'objets sonores. Il y a des sons qui ont disparu, il y en a d'autres qui ont apparu. Mais ma manière d'écouter, moi, elle a changé aussi. Donc le paysage sonore, il a pas mal changé. Et ce que je constate, c'est que l'écoute du public s'est beaucoup transformée en 30 ans. C'est assez étonnant. Pas mal. Il y a 30 ans, ça joue tout seul, c'est déjà là. Il y a 30 ans, je suis sûr que les gens auraient appelé ça du bruit. Ça nous arrive maintenant tous les jours, puisqu'on fait quand même vraiment écouter des drôles de choses, dans des drôles de conditions au public, mais c'est ça qu'on aime faire aussi, c'est déstabiliser un petit peu l'écoute pour les spectateurs, pour les rendre disponibles. Alors ça, je suis sûr que l'écoute de l'environnement a beaucoup changé. Par exemple, je me souviens très bien que dans notre projet de chantier archéophonique, qui est donc un laboratoire imaginaire, alors là où la science s'arrête, le théâtre commence, et donc on peut créer l'illusion. Et quand on a réussi à mettre le spectateur comme ça, dans cette magnifique aventure que constituerait l'écoute d'un objet dans lequel on entend des sons qui datent peut-être de 50 ans, de 100 ans, de 200 ans, voire plus, qu'est-ce qu'on s'attend à entendre ? Et qu'est-ce que surtout il faut pas entendre trop vite ? Ou est-ce que surtout, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre pour qu'on se dise « Ah, ben ils ont mis de la musique !» Bon, non, on s'est aperçu qu'en fait, il fallait mettre des sons beaucoup plus mystérieux, très difficiles à identifier, mais quand même qui constituent une espèce de récit. Et là, l'imaginaire du spectateur commence à fonctionner. Là, le spectateur commence à connecter ce qu'il entend avec toute sa mémoire sonore, avec tout ce qu'il a entendu depuis sa petite enfance, etc. Et il travaille. Il devient créatif. Et au lieu de sortir d'une pièce ou d'un concert, bah, il sort d'une expérience. Et après, j'ose m'imaginer que quand il écoute son radiateur ou son frigo la nuit, il entend autre chose.
Comment faire de chaque moment d'écoute un moment de rencontre surprenant, rare, inestimable.
Chaque jour, chacun d'entre nous informe et façonne le monde avec chaque son qu'il émet. C'est une responsabilité.
Par le son, le quartier le plus modeste et le plus banal pourrait acquérir une dimension poétique.
Alors, aidez l'OREI.
C'était Comme un bruit qui court. Toutes les informations sont sur le site de France Inter. Laissez-nous des messages, abonnez-vous au podcast et faites courir le bruit sur les réseaux sociaux. Que le bruit court. Hashtag Comme un bruit. Juste après les infos, prenez les routes de la musique avec André Manoukian. Bon réveillon à tous et on se retrouve samedi prochain à 16h.